Maïs, sa sœur orientale. J'ai reçu totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Koumbati, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux, la critique de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous et merci de vous joindre en nous pour cet échange d'un parole aux auditeurs. L'UNICEF décrète chaque année avec son partenaire la semaine du 1er au 7 août, semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le but, sensibiliser les communautés sur les liens directs ou indirects avec chacun des 8 objectifs du millénaire pour le développement. En RDC, des progrès significatifs sont en train de se réaliser. En 2013, la dernière enquête EDS2 a révélé qu'environ un enfant sur deux bénéficie de l'allaitement maternel exclusif. Comment capitaliser cet acquis? 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct. Jérôme Nguembo coordonne et réalise cette émission mise en onde par Eric et Sidiakala, Piro et Lameiji. Vous la présente sous la supervision de Nico Ndaka. Fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081-890-6315 ou par internet pa@radiocapi.net. Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mairie.
Le gouvernement de la RDC a pris des engagements dans le cadre de la lutte contre la mortalité maternelle, mais aussi infantile, en mettant aussi l'accent sur la campagne pour l'allaitement maternel, l'allaitement exclusif. Plusieurs directives ont été énoncées pour arriver à rire sur cela. Comme la situation sur le terrain s'est engagée sur la bonne voie, avec un enfant sur deux qui bénéficie de l'allaitement maternel exclusif selon les derniers résultats de l'enquête EDS2. Alors, comment capitaliser cet acquis dans la lutte pour l'allaitement maternel exclusif? Nous en parlons avec vous, 081-890-4969, le numéro d'appel pour intervenir en direct. Nous avons aussi des auditeurs qui nous ont écrit des messages à travers la page Facebook des paroles aux auditeurs. Nous avons Manzongo Grassi qui nous a écrit des Mbandaka dans la province de l'Équateur. Il dit ceci: l'allaitement maternel est très nécessaire dans la vie d'un enfant. Alors, pour capitaliser cet acquis, l'UNICEF doit collaborer avec d'autres partenaires en lançant des campagnes de sensibilisation sur toute l'étendue du pays pour éduquer les femmes sur l'avantage de l'allaitement. Les hôpitaux doivent aussi enseigner aux femmes, mais il y a des femmes aussi qui ne peuvent pas comprendre tout cela. Très bien, ça doit être expliqué. Merci beaucoup. Nous allons tout à l'heure accueillir nos invités dans ce studio. En attendant, nous avons la Guilois qui nous appelle de Kalemi, dans la province du Katanga. La Guilois, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour Pierrot, et bonjour à tous les amis de la...
Oui, la Guilois, comment capitaliser cet acquis, l'avancée en ce qui concerne l'allaitement exclusif? Qu'est-ce qui doit être fait pour consolider les acquis sur le terrain, la Guilois?
Oui, merci M. Pierrot. Je pense que l'allaitement maternel est très nécessaire. Nous sommes tous des constatés dans nos milieux que nous sommes. C'est là qu'ils sont chargés de pouvoir inculquer, montrer aux femmes qui accouchent l'importance de quoi du lait maternel. Mais ces gens ne font pas le travail. Quand parfois nous sommes tentés de voir, il y a tellement. Lorsque l'enfant atteint déjà l'âge de 6 mois, l'enfant est privé du lait maternel. Maintenant, le lait artificiel. Et pour vraiment, je vais demander à tous les responsables des différents hôpitaux privés et publics de pouvoir un peu divulguer l'importance du lait maternel, parce que quand quelqu'un veut priver veut intégrer à l'enfant du lait maternel, c'est-à-dire il veut aussi la loi visant la protection de l'enfant. Parce que le lait maternel est trop nécessaire par rapport au lait artificiel. Vous pouvez voir l'enfant qui a vécu avec le lait artificiel n'a pas une meilleure santé, a des conséquences. Dans toutes les épidémies qui viennent, l'enfant est frappé par de telles catégories des épidémies. C'est pourquoi, moi, je vais demander seulement à toutes les femmes qui sont tentées d'inculquer, soit d'expliquer l'importance du lait maternel à toutes ces femmes qui viennent dans les hôpitaux, qui donnent aussi des obligations, soit qu'ils leur aussi montrer quel est l'avantage lorsque vous privez l'enfant du lait maternel à l'âge de 6 mois. Et quels sont aussi les désavantages? Là, ça pourrait un peu donner à ces femmes-là qui, bon, du courage afin de pouvoir aussi maintenir les enfants au lait jusqu'à ce que l'enfant pourra atteindre un âge de 2 ans, voire de 2 ans et demi.
Merci voilà, beaucoup, la Guilva, pour cette contribution. Vous êtes à Kalemi, dans la province du Katanga. Comme je le disais tout à l'heure, nous recevons dans ce studio le docteur Eric Alain Atekbo, qui est nutritionniste principal à l'UNICEF. Docteur Atekbo, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Bien avant d'écouter d'autres auditeurs, mais pourquoi d'abord avoir organisé la semaine, ça s'appelle Semaine mondiale de l'allaitement, c'est ça?
Merci. Avant de répondre à votre question, je voudrais commencer par remercier toutes ces mères congolaises qui, par le changement de comportement, par le fait qu'elles aient adopté l'allaitement exclusif de leur enfant pendant les 6 premiers mois de la vie, ont permis aux indicateurs nationaux de s'améliorer. Vous n'êtes pas sans savoir que la dernière enquête démographie et santé a révélé une amélioration nette de la pratique de l'allaitement maternel exclusif, qui est passé de 37% en 2007 à 48% en 2013. Donc, c'est un saut qualitatif. Et j'invite les autres mères qui n'ont pas encore fait ce choix de suivre le pas de celles qui l'ont fait. Elles l'ont fait parce que c'est possible et c'est faisable, comme nous invitons tout le monde à le faire. Pour revenir à votre question sur l'allaitement maternel exclusif, pourquoi cette semaine? Comme je l'ai dit dans d'autres circonstances, nous devons faire la promotion de l'allaitement maternel du 1er janvier au 31 décembre, parce que c'est important, parce que c'est vital. Et pour cela, nous voulons compter sur la presse. Mais une fois dans l'année, pour remonter son importance et pour focaliser toutes les énergies et toutes les attentions sur cette pratique vitale, il a été retenu sur le plan international d'avoir une semaine sur l'allaitement maternel. Comme on a la journée du paludisme, on a la journée du micronutriment, c'est important, c'est vital et c'est nécessaire qu'on marque un arrêt dans l'année pour célébrer le progrès, mais aussi pour adresser les défis et faire bénéficier tous les enfants de cette pratique vitale.
Mais je vois là un document avec moi qui fait les liens, que ça peut être direct ou indirect, entre les objectifs du millénaire pour le développement. Comment on peut expliquer l'allaitement maternel par rapport à la réalisation de ces objectifs?
Merci. L'allaitement maternel est central au développement. Ce n'est pas une simple question d'allaiter un enfant, de nourrir l'enfant. Et l'allaitement maternel est central au développement, en ce sens qu'il est lié à chacun de ces 8 objectifs du millénaire. On prend le premier objectif qui, par exemple, est lié à la faim et à la pauvreté. Déjà la faim, parce que c'est l'allaitement maternel. Parce qu'on alimente l'enfant, cet enfant n'a plus faim, donc son alimentation est rassurée. Mais parce que l'alternative au lait maternel doit être achetée, il faut acheter le lait artificiel, même si c'est le lait de vache. Il faut acheter le bois, il faut le bouillir, il y a le temps de la femme. Donc, ce temps qu'on aurait gagné, cet argent qu'on n'aurait pas dépensé en achetant le substitut de l'eau maternelle, règle un temps soit pour la question de pauvreté. Donc, c'est déjà ça le premier objectif du millénaire. Nous avons le deuxième objectif du millénaire qui après à l'éducation.
À l'éducation, oui.
Et là, nous savons que les cellules cérébrales se mettent en place dans les premiers jours de la vie. Et lorsqu'on a une alimentation adéquate, le lait maternel étant l'aliment le plus adapté pour un bon développement de l'enfant, nous avons un citoyen qui est prédisposé à bien suivre et à apprendre à l'école et des chances de succès sont garanties. Si je prends la défiche numéro 3 par rapport à l'équité, lorsque je dois faire les dépenses, en situation de rareté, je dois faire des choix. Et malheureusement, le choix reste encore orienté par les gens. On voit dans nos communautés rurales qu'on a favorisé plus le garçon que la fille. Donc ici, l'allaitement maternel peut nous permettre de ne pas faire ce choix. Le lait est disponible, le sein est là, et que l'enfant soit garçon ou fille a la chance d'avoir accès au lait maternel. Donc ça adresse aussi, dans une certaine mesure, la question de l'équité. On vient à la question
de la mortalité des infantiles.
Voilà, on vient à la question numéro 4, qui est la réduction de la mortalité infantile, et c'est là le plus gros impact. Et nous avons des publications scientifiques très sérieuses qui ont montré que l'allaitement maternel est la seule intervention qui prise isolément permet de réduire 13% de la mortalité. Encore une fois, ici, je veux mettre en exergue les progrès réalisés en RDC. où la mortalité infantile juvénile a baissé significativement, qui n'est que de 404 pour 1960. Le progrès est encore possible. Et l'allaitement maternel a un rôle à jouer là-dedans. Mm-hmm. Qu'est-ce qui tue les enfants? On parle des maladies tuées, c'est d'abord les diarrhées, c'est le paludisme, la malaria, et ce sont les infections respiratoires aiguës. La diarrhée vient par l'eau, par la dilution, par les contacts avec l'aliment de l'enfant. Le lait maternel n'a pas besoin de diluer. Il passe directement de l'intérieur de la mère à la bouche de l'enfant. Mm-hmm. Donc le lait maternel est une intervention puissante pour réduire la mortalité infantile juvénile. Et nous voyons à EDC cette corrélation parfaite entre l'augmentation de la pratique de l'allaitement exclusif et la réduction de la mortalité. Donc c'est quelque chose qui se démontre assez aisément. Nous avons aussi
l'amélioration de la santé maternelle. Bon, il y en a beaucoup.
Il y en a beaucoup.
On n'a pas le temps de avoir. Mais peut-être qu'il y a quelque chose qui... je veux m'attarder un peu sur l'objectif 6 qui est de combattre les VIH. Mais on sait aussi que dans beaucoup de nos villages, dans la communauté, il arrive qu'une femme meure, que ce soit juste après avoir donné naissance, ou soit elle a été malade une semaine après. On prend l'enfant, on donne à une nourrice. Mais alors, comment là, on peut pas... connaître les risques de la transmission du VIH pour l'enfant qui va être nourri par quelqu'un d'autre qui n'a pas été sa mère, peut-être qu'on ne connaît pas son état sérologique.
Question intéressante qui revient très souvent, parce que la population veut faire l'allaitement maternel et la population veut tout savoir avant de s'y engager. Mm-hmm. Et nous trouvons que c'est une question tout à fait légitime. Je crois qu'il y a un certain nombre de principes et il faut relativiser un certain nombre de choses. Le risque qui existe pour un enfant de mourir de la malnutrition est beaucoup plus élevé qu'un risque de mourir du VIH. Mm-hmm. Ça, c'est d'abord la première chose qu'il faut expliquer aux gens. La deuxième chose, vous aviez dit dans votre hypothèse qu'on ne connaît pas l'état sérologique de la mère. On peut connaître, mm-hmm. mais il y a des cas où on ne connaît pas. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est que dans le tract intestinal de l'enfant, il y a une barrière de protection. Il y a une muqueuse qui protège l'enfant et qui réduit les agressions et le passage des microbes vers le milieu intérieur de l'enfant. Et lorsque cet enfant est exclusivement au lait maternel, cette barrière de protection est protégée. Mais lorsqu'on fait autre chose, mm-hmm. qui agresse le tract intestinal, la barrière est détruite. Donc, le risque mm-hmm. pour un enfant de contacter le VIH-SIDA à travers le lait maternel, lorsqu'il est sous allaitement mixte, est beaucoup plus élevé oui. que lorsqu'il est sous allaitement exclusif. Okay. Enfin, nous savons que les directives de l'OMS sont très claires dans le lien entre allaitement maternel et VIH-SIDA. La proportion de transmission de la mère à l'enfant est faible. Mais aujourd'hui, lorsqu'on a encore la chance de mettre la mère sous ARV, les enfants rétroviraux, qui sont de plus en plus disponibles, parce que ça, si c'est un effort qui se fait par le gouvernement et les partenaires, le risque est vraiment moindre.
Alors, on va,
il y a plus à gagner qu'à perdre.
On va revenir à vous. Il y a Pompon qui nous appelle de Lubumbashi, donc Richard à Kinshasa, Daniel à Kisangani. On aurait voulu aussi avoir beaucoup de femmes qui nous appellent pour intervenir dans cette émission consacrée à l'allaitement exclusif au lait maternel. Vous êtes nombreuses à écouter Radio Capi à travers la RDC, mais aussi à l'extérieur. Cette émission vous intéresse aussi toutes les femmes qui nous écoutent. Appelez-nous au 081 890 4969.
Parole aux auditeurs.
Pompon, vous êtes à Lubumbashi au Katanga, bonjour.
Bonjour monsieur Nier, je dis bonjour à votre invité, sans vous oublier toute votre équipe de parole aux auditeurs et aussi toute la population de l'RDC en général.
Voilà, nous avons dit en début de cette émission que selon la dernière enquête AIDS 2, on a révélé qu'un enfant sur deux bénéficie de l'allaitement maternel exclusif en RDC. Et notre souci, c'est de savoir comment consolider cet acquis sur terrain. Où vous êtes à Lubumbashi, qu'est-ce qui doit être fait aujourd'hui pour garder ces gaps ou améliorer encore davantage, Pompon?
Merci beaucoup. Ce que moi je veux dire, c'est vraiment, qu'on puisse parler seulement en termes de sensibilisation, beaucoup plus dans les différents hôpitaux et centres de santé, voilà où les différentes mamans vont toujours subit toujours les consultations prénatales, les postnatales, qu'ils puissent avoir quand même les gens qui sont experts en matière nutritionnelle, des nutritionnistes, voire même des pédiatres qui sont expérimentés en matière de la pédiatrie, pour les faire voir la situation, voire même l'importance de l'allaitement maternel. Vous savez, monsieur Gilles, du fait que l'allaitement maternel est très bon et peut être très nécessaire et indispensable pour la santé de l'enfant. Sans faire que vous plongez toujours beaucoup plus à la relève qui sont apparemment artificielles, telles que ce qu'ils appellent en termes de la lactogène et de glucose et autres. Parce que beaucoup plus, vous voyez un enfant, la maman peut peut-être laisser abandonner cet enfant, aller au boulot, au travail, n'importe, je ne sais pas quoi, et pour qu'elle puisse venir récupérer l'enfant le soir au niveau de la crèche et autres. Vous venez voir que pendant cette période-là, l'enfant habité a une frustration. C'est-à-dire une privation injustifiée, vous allez voir que même son état de santé sera beaucoup plus critique. Du fait que vous n'avez pas monopolisé la parole de ces IE, vous avez aussi, pas que nous puissions donner quand même l'occasion aux différentes mamans d'intervenir aussi, raison pour laquelle je vais me synthétiser en disant que j'en posais une question très pertinente à notre
invité
qui est beaucoup plus tard, médecin spécialiste en domaine de la pédiatrie, voire même de la nutrition. Alors, cette question c'est une question pertinente pour moi. Maintenant, quelles sont les conséquences néfastes de ce qu'on appelle le sévrage? C'est un nourrisson. Imaginez-vous si c'était un terme peut-être en matière de travail. Quelles sont les conséquences néfastes du sévrage? C'est un nourrisson.
Merci. Merci beaucoup, Pompon. La question est posée à notre invité, il pourra bien en répondre. Hein, mais je retiens dans votre argumentaire qu'il faut plus multiplier les campagnes de sensibilisation, mais avoir aussi de spécialistes, hein, ceux qui comprennent bien la notion de nutrition dans les centres de santé pour permettre aux femmes qui viennent consulter pour une ou une autre raison de pouvoir sensibiliser sur l'importance de l'allaitement exclusif. Merci. Docteur Richard, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour JR, bonjour à mon confrère invité.
Voilà, c'est Pierrot au micro, docteur Richard. Vous avez suivi le premier auditeur, les mails que nous avons lus, les explications de notre invité, vous aussi, en tant que médecin. Comment on peut consolider le travail sur terrain pour permettre à ce que l'allaitement exclusif soit vraiment ancré dans les habitudes, je ne veux pas dire seulement des femmes, mais de la communauté?
Oui, merci pour cette question. Je commence par dire... Je crois l'allaitement maternel est naturel et a été détruit par le modernisme. C'est pourquoi nous insurgeons contre ceux qui interprètent mal les propos qui disent révolution de la modernité. Ça pousse beaucoup de femmes à rejeter l'allaitement au sein. Je voudrais dire que comme pratique naturelle, cet allaitement dérangé avec la colonisation qui a amené à la femme congolaise certaines habitudes dites modernes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième, il faut que la communauté sache que, parce que ce n'est pas dit, mais moi je le dis, comme on dit complètement au sein exclusif, c'est si prenez-moi de la vie, ça signifie on ne veut pas.
Docteur Richard, pourriez-vous vous déplacer un tout petit peu là, parce que là on a des petits soucis pour mieux vous entendre. Continuez à intervenir, mais tout en de vous déplaçant, je crois que ça va s'améliorer.
Mais là, ça va?
Oui, allez-y, oui.
Oui. Je peux dire que les sortes de boissons qu'on donne aux enfants ne sont pas de bonne qualité. Pourtant, si elles étaient pour le son, elles n'étaient pas dites.
Ah, dommage vraiment que la ligne téléphonique se détériore entre nous et Dr Richard. On pourra voir peut-être avec la réalisation, hein, si c'est possible qu'on vous rappelle Dr Richard, parce que votre argumentaire est vraiment important. Vous avez dit l'allaitement est naturel, mais ça a été détruit par le modernisme, hein, et puis malheureusement là ça se détériore. On va voir avec la réalisation si c'est possible de pouvoir vous rappeler et puis en attendant on écoute Daniel qui est à Kisangani en province orientale. Bonjour Daniel.
Bonjour Pierrot, bonjour Daniel, bonjour Pratio.
On a des petits soucis. Daniel, est-ce que à Kisangani, avez-vous déjà observé des campagnes de sensibilisation dans la communauté autour de l'allaitement exclusif? Est-ce que ça arrive des fois que vous puissiez voir les gens mener des campagnes de sensibilisation sur ça?
Tout à fait, Pierrot, comme
Voilà, là, je crois qu'on a de petits soucis des lignes téléphoniques, hein, et Kinshasa, Kisangani. Bon, en attendant, on fait un pas à Kamina. À Kamina, où se trouve Guy avec nous. Guy, bonjour.
Bonjour, notre journaliste.
Bien, la question que je voulais demander juste tout à l'heure là, à notre ami de Kisangani, est-ce qu'à Kamina, avez-vous aussi de campagnes de sensibilisation sur l'allaitement? Est-ce qu'on en parle vraiment dans la communauté?
Alors, en tout cas, il y a un problème. C'est la question que je voulais même poser à notre invité. Qu'est-ce que l'UNICEF a prévu comme stratégie de politique de sensibilisation de l'allaitement maternel ici à Kamina? Parce que je pense qu'il y a une grande ignorance. Donc, beaucoup de gens ne connaissent pas. Les gens, un projet qui est en tout cas ignoré. Donc, il y a, les enfants ne sont pas nourris jusqu'à 6 mois. Les enfants mangent n'importe quoi. Et il y a beaucoup de problèmes qui sont liés, beaucoup même de mortalités qui sont liées par rapport à cette histoire. Moi, je voulais juste poser la question s'il y a un programme bien précis par rapport à la sensibilisation au Kamina.
Voilà, merci beaucoup Guy, c'est la question que nous avions aussi préparée pour notre invité, docteur Eric Alain Atekbo. On a vu notre question principale pour l'émission, c'est comment consolider les acquis, n'est-ce pas, les chiffres que nous avons, c'est que nous sommes dans une engagés sur une bonne direction, alors il faut consolider. Mais alors, comment vous en prenez, que ce soit l'UNICEF, le gouvernement, tous les autres partenaires, pour arriver vraiment à consolider ces résultats?
Merci beaucoup monsieur le journaliste, je suis heureux de cette question parce que en le posant, on rappelle à la population que rien n'est définitivement acquis. Et les gains doivent être consolidés, les gains doivent être entretenus, donc le travail, il est continu. Donc comme je disais d'entrée, il y a une avancée notable et il faut continuer. Mais il faut préserver ce qu'on a déjà gagné. Et pour le faire, nous avons déjà des sensibilisations qui se font. Je reviendrai dans une deuxième partie de ma réponse sur comment est-ce que les sensibilisations se font. Donc là, comme l'a dit le premier intervenant Pompon, il y a la sensibilisation qui se fait. Mais sur qui porte la sensibilisation en ce moment? Généralement, c'est entre la mère et l'agent de santé, ou la mère et le relais communautaire qui vient apporter le message. Mais nous devons faire en sorte que l'allaitement maternel exclusif devienne une norme sociale. Une norme sociale qui est acceptée de tous, de sorte que la mère qui ne pratique pas l'allaitement maternel soit perçue comme une mauvaise mère. Et pour que ça devienne une norme sociale, il faut que les gardiens de la tradition soient convaincus. Il faut qu'on adresse les gardiens de la tradition qui définissent les normes sociales. Donc aujourd'hui, l'approche que nous avons de l'agent de santé à la mère, ça marche, mais une fois que la mère est convaincue, il se pourrait qu'elle ait encore des barrières, des obstacles autour d'elle qui ne lui permettent pas d'appliquer ce pourquoi elle est convaincue, ce qu'elle connaît. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il nous faut faire pour consolider les acquis. Il y a cette frange des femmes qui travaillent. Et lorsque je parle des femmes qui travaillent, je ne pense pas qu'aux femmes fonctionnaires ou femmes qui sont dans le secteur privé, mais aussi à ces mères, à ces braves mères qui sont en milieu rural, mais qui passent plusieurs heures de la journée à travailler, parfois éloignées de leurs enfants. Je crois qu'il faut que dans le contexte de chaque femme, on arrive à mettre en place un système de soutien. Dans le milieu du secteur privé, du fonctionnaire, il y a les congés de maternité, il y a les horaires flexibles, et il y a même cette convention du Bureau international du travail, c'est la convention numéro 183, qui encourage les États à prolonger le congé de maternité jusqu'à 6 mois pour permettre à la maman d'être en situation de pratiquer l'allaitement maternel exclusif. Nous n'en sommes pas encore là à RDC, mais c'est la disposition internationale qui nous donne de l'espace pour améliorer la situation. Et il nous faut voir aussi en milieu rural comment soutenir la femme. J'ai l'exemple de la Gambie où, dans la communauté, on a créé au niveau de chaque regroupement de champs une case qui sert de crèche où la mère, au lieu de laisser son enfant à la maison aller au champ à 10 km, va jusqu'au champ avec son enfant et les dépose dans cette crèche et qui peut revenir de temps en temps à l'allaiter. On peut faire de la créativité, il y a de l'expérience qui existe et donc avec ces ajustements, tenant compte de la configuration et des préoccupations de chacun, on peut adapter la situation et à appuyer.
Mmh. Mais il y a une question, donc, ami Pompon, je crois que vous avez terminé par rapport à la sensibilisation, comme ça on va
répondre
à la question des Pompons sur les conséquences de la palette du sévrage.
Oui, bon, pour reprendre de façon plus simple la question de Pompon, parce que le mot sévrage peut prêter à confusion. J'espère qu'il est d'accord avec moi que la question c'est de savoir quelles sont les conséquences pour l'enfant à qui on donne quelque chose autre que le lait maternel.
Le lait maternel, voilà.
Dans cette situation, je dirais que les conséquences sont désastreuses. Les conséquences sont désastreuses parce que c'est cet enfant qui est exposé à des infections dues au péril hydrique, c'est-à-dire les contaminations liées à l'utilisation de l'eau potable, c'est cet enfant qui va faire des diarrhées, c'est cet enfant qui reçoit du lait dont les parents ne respectent pas la dilution et qui ne... Parce que le lait, le substitut du lait maternel, il a parlé de lactogène. Donc, on suppose une certaine dilution. Mais, convenez avec moi que dans les milieux où le niveau d'éducation, où le niveau de lecture n'est pas assez élevé, on ne comprend pas très bien ce qui est sur les boîtes. Parfois, on ne les lit même pas. On fait un mélange à la juger. Et là, cette dilution peut tuer parce que quand le lait est trop dilué, l'enfant ne reçoit que de l'eau.
Mm-hmm.
Et cet enfant ne couvre pas ses besoins, ni en énergie, ni en vitamines, ni en minéraux. Et dans ces conditions, son développement mental, psychologique, physique, tout ça est compromis. Donc, la liste est longue.
Mm-hmm.
Je dirais tout simplement que les conséquences pour cet enfant sont incalculables. Mm-hmm. Elles sont parfois immatérielles, qu'on ne peut pas voir tout de suite. Mm-hmm. Mais elles sont là et il faut les éviter à tous les prix.
Mm-hmm. Il y a un général Mangol qui était Kinshasa, Samuel Etabounia et Albert Afongour. Mais Dr. Richard parlait du modernisme tout à l'heure. C'est ça aussi la lutte, hein. C'est le prestige, n'est-ce pas, qu'on a dans notre société de considérer quand on a un enfant qu'on traîne dans une, je sais pas, une chaise roulante avec un biberon à côté. C'est le prestige que nos femmes ont dans les milieux urbains surtout. Alors, est-ce que la campagne, c'est seulement auprès des femmes qui sont déjà au foyer avec leurs enfants ou on doit l'étendre dans la communauté, comme j'ai bien évoqué ce terme communauté, pour dire la femme et la jeune fille va devenir maman demain? Est-ce qu'on peut avoir aussi des interventions ciblées comme ça? Ou c'est seulement envers les femmes qui ont des bébés qui vont aller par exemple à l'hôpital ou celles qui sont déjà au foyer?
Ah, le modernisme est là, on va faire avec, on va vivre avec. Mais tout en restant dans la dynamique du modernisme, il faut qu'on garde ce qui est bien.
Mm-hmm.
Donc, il ne faut pas détruire ce qui marche. L'allaitement maternel qui est naturel, qui est traditionnel, il ne faut pas qu'on le perde dans le modernisme. Mais quant à votre question, est-ce qu'il faut cibler les mères qui sont prêtes à aller à l'hôpital? C'est trop tard. Pour que ça devienne une norme sociale, il faut qu'on commence à l'école. Il faut qu'on commence, que les enfants, en même temps qu'on leur apprenne le lavage des mains au moment des moments critiques, il faut qu'on leur dise aussi que la vie commence avec l'allaitement maternel. Pour que la vie commence bien, pour que chaque enfant ait un bon départ dans la vie, il faut qu'il bénéficie de l'allaitement maternel. Il y a deux avantages à cela. Un, on a l'assurance que les enfants sont les puissants agents de changement. Ils peuvent influencer le comportement de leurs parents à la maison. Deuxièmement, c'est eux les parents de demain. Et ce qu'on a appris de la lutte de libération en Afrique du Sud, c'est ce qu'on a inculqué à un enfant avant l'âge de 7 ans, il ne le perd plus.
Mm-hmm.
Donc les écoles, c'est un moment de réponse.
Docteur, ingénieur Mangoyo, vous gardez la ligne Samuel Etabounia, Albert Etafongourou, mais il y a des auditeurs qui ont déposé les messages sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Patience Macha Galouké dit ceci, il faut plus sensibiliser aussi les agents de santé pour qu'ils aient des termes clairs et des mots qu'il faut quand ils doivent s'entretenir avec les femmes, comme ça ils pourront bien expliquer. Si eux n'ont pas de bonnes explications, ils risquent de ne pas convaincre les femmes qui iront dans les hôpitaux. Sophorien Bidoya qui nous a écrit des Kananga au Café Occidental. Pour capitaliser cet acquis, il faut que tous les leaders sanitaires qui sont dans les coins et recoins du pays fassent connaître à toutes les communautés l'importance de l'allaitement maternel en impliquant aussi les leaders sociaux, les chefs coutumiers, les pasteurs, les églises. Voilà ce qu'il faudrait faire. Ça, c'est la proposition des Sophorien. Je rappelle encore que nous parlons de l'allaitement maternel et nous insistons bien sûr sur les termes exclusifs. Hein, nous en parlons avec Dr Eric Alain Atekbo, qui est spécialiste de nutrition, nutritionniste, spécialiste principal bien sûr à l'UNICEF. Si vous avez besoin d'intervenir, surtout les femmes qui nous écoutent, appelez-nous au 081-890-4969. 081-890-4969.
Au capidance du rythme de la chaleur. des heures de musique, les tubes du moment et les meilleures nouveautés. R&B, hip-hop, rumba électrique, pop, rap, d'Afrique ou d'ailleurs. Tous les tempos mixés par DJ Dagui. Au Capitan, le mercredi jeudi de 21h à minuit, le samedi, Megamix de 19h à minuit.
Donc, ingénieur Mangoyo, vous êtes ici à Kinshasa, bonjour.
Bonjour, M. Pirot.
Vous avez suivi les uns et les autres. Nous avons besoin de savoir, nous, en tant que communauté, ce que nous devons faire pour consolider les acquis par rapport à l'allaitement exclusif. Parce qu'on a tendance, quand on parle de ces genres de sujets, les gens ont tendance à regarder les infirmiers, le médecin, ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. À nous, en tant que communauté, qu'est-ce que nous devons faire pour capitaliser ces acquis, ingénieur Mangoyo?
Merci bien, Pirot, pour cette thématique qui est vraiment capitale, parce que cette thématique a trait à l'existence même de l'humanité. Vous savez, c'est comme on dit, Pirot, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Moi, je pense que au niveau de la famille, il faut que nos mamans prennent les responsabilités d'abord en essayant d'éduquer la jeune fille en famille et lui expliquer les conséquences et les avantages liés à la nutrition au sein maternel. C'est très important. Il faut que les mamans consacrent beaucoup plus de temps pour le faire au niveau de la famille. Ensuite, il faut au niveau des écoles. Au niveau des écoles, comme l'a dit notre invité, que je salue en passant, qu'on renforce la formation au niveau des cours de l'éducation civique. Moi, je proposerais que ce cours soit dispensé par des femmes. Des femmes, pourquoi? Pour que la communication soit directe et que pour que la jeune fille puisse prendre réellement conscience de cet avantage-là. Parce qu'avec les hommes, bon, ce cours existe, mais avec les hommes, souvent, nos jeunes filles n'intériorisent pas tellement cet aspect-là. Donc avec les femmes, je crois que ce sera plus touchant et c'est bien. Alors, au niveau des centres de santé, bien sûr qu'au niveau des centres de santé, il faudra aussi qu'on puisse intensifier cette campagne-là. Pourquoi ne pas, comme à l'image de ce qu'on fait lorsqu'on doit organiser des campagnes de vaccination, ils peuvent passer avec périodiquement, avec des parlophones, au niveau des quartiers, on essaie de vulgariser, et vous allez voir, surtout les filles mères, il faut les vulgariser, il faut sensibiliser au niveau des quartiers avec des parlophones. Je crois que ça peut aussi être profitable pour les nouveau-nés que nous devons protéger. Enfin, je terminerai par le gouvernement qui doit accompagner dans la construction des crèches, au niveau des foyers sociaux, des crèches, et aider les partenaires qui peuvent s'intéresser à ce sens-là. Et je crois que au niveau des médias aussi, dans les émissions qu'on nous présente, moi je ne veux pas citer une chaîne ici que j'aime bien, qui vraiment éduque. Alors, il faudra aussi qu'au niveau des médias, à la télé, surtout les médias publics, qu'on consacre les émissions spécialement pour ça. Et vous allez voir, puisque les enfants aiment bien suivre les émissions, les jeunes filles aiment bien suivre les émissions, au lieu à la place des divertissements inutiles, qu'on consacre les émissions comme ça, vous allez voir, Pierrot. Nous allons vraiment faire quelque chose de bien dans ce sens-là. Voilà, c'était mon intervention.
Merci beaucoup, ingénieur Mangoyo, pour ces propositions. Vous êtes ici à Kinshasa, la famille, l'école, les centres de santé, le gouvernement, les médias. Tout le monde doit s'engager, n'est-ce pas, dans cette campagne. Mais vous avez pensé qu'il faudrait, à l'instar de ce qu'on fait pour les campagnes de vaccination, avoir aussi des séances de vulgarisation publique, de réunions, de séances populaires, qui peut faire à ce qu'il y ait l'attention des uns et des autres soit attirée vers l'allaitement. Merci beaucoup, ingénieur. Samuel, vous êtes à Bounia, c'est en province orientale. Bonjour, Samuel.
Okay. Bonjour, Pierrot. Bonjour, j'ai une question pour le dialogue.
Allez-y, posez la question.
Est-ce que je peux lui donner le lait, je pense?
Vous avez dit que le... Oui, Samuel, on a des petits soucis de ligne avec. Vous avez dit que l'enfant a combien de mois?
L'enfant a 2 mois.
À 2 mois.
Est-ce que je peux lui donner le lait de vache?
Merci pour la question. Si vous vous rendez compte que l'enfant a 2 mois et que le lait maternel est insuffisant, faudrait-il ajouter un autre aliment? Merci, la question sera posée à notre invité. Bon, on va écouter Albert qui est à Fungourmé dans la province du Katanga. Bonjour Albert.
Bonjour monsieur.
On vous écoute Albert. À Fungourmé, par exemple, les femmes ont-elles cette tendance à aimer l'allaitement maternel ou y a-t-il encore un travail qui doit être fait au niveau de la communauté, Albert?
Oui, merci beaucoup monsieur Pierrot. Et je dis aussi merci beaucoup à l'invité. Je crois qu'il pourra nous éclaircir sur beaucoup de choses. Oui, je prends d'abord l'intervention du docteur Richard de Kinshasa, parce qu'il y a eu un problème de ligne. Mais ses arguments étaient vraiment très bien fondés et ça m'a donné encore le courage d'être un peu à l'écoute pour cette émission. Le problème, c'est quoi? C'est le modernisme qui est en train de tout gâcher ici, peut-être à Fungourmé mais où je suis. Il y a cette campagne-là, cette initiative de sensibiliser les mamans. Il y a aussi l'ONG, je crois, Sea Change, qui est venue ici à Fungourmé pour aider les mamans à prendre la responsabilité sur l'allaitement maternel. Mais moi, personnellement, j'ai fait cette expérience et ça a vraiment donné de bons fruits et j'ai vu que ça m'a beaucoup aidé. Et j'ai commencé maintenant à sensibiliser tous ceux qui étaient autour de moi pour leur dire que l'allaitement exclusif est vraiment meilleur parce que l'enfant n'a pas de problème, n'a pas de soucis. L'enfant grandit normalement et vraiment ça m'a beaucoup aidé. Mais ce que je demanderais, c'est qu'on mette beaucoup de moyens pour qu'on sensibilise les mamans partout où elles vont. Même au marché, les sensibiliser, même lors de la CPN, de la CPS. Vraiment qu'on sensibilise les mamans. Parce que si elles prennent cette initiative-là, vous verrez que la mortalité sera peut-être à 0%. Et je demanderai au gouvernement et aussi à l'invité, parce qu'on a posé un problème sur le sévrage. Ici à Fungourmé, on vit ce problème-là. C'est presque... Les mamans veulent imiter les voisines ou bien l'autre parce qu'elle a fait ça, elles ont aussi imité. C'est un problème qu'on mette vraiment des moyens pour sensibiliser les mamans, pour qu'on arrête avec cette situation. Il y a une maman qui peut vous dire non, mon enfant a déjà 1 année et 3 mois, c'est fini, je vais le sévrer. Mais on ne sait pas les conséquences parce que moi j'ai vu de mes propres yeux une famille qui a sévré l'enfant à presque 1 année et l'enfant est mort en atteignant 1 année et 2 mois. Et vraiment, ça n'a pas plus
été. Merci beaucoup, Albert.
Et on doit continuer, vraiment, il faut continuer que le gouvernement
mette beaucoup de moyens dans la campagne de la sensibilisation à la visibilisation. Merci beaucoup, Albert, d'ailleurs, pour votre expérience. Vous l'avez expérimenté vous, dans votre famille, vous avez vu que c'est important. Mais honneur aux dames, Elodie, vous êtes à Guémena, c'est depuis le début de l'émission. Ça fait quand même plaisir d'avoir une femme. Nous parlons de l'allaitement. Elodie, quand vous regardez en tant que femme à Guémena, y a-t-il de choses qui font aujourd'hui que les femmes ne soient pas vraiment attirées ou ne soient pas très, très intéressées à allaiter exclusivement l'enfant au lait maternel? Vous, en tant que femme, quand vous regardez dans votre milieu à Guémena, y a-t-il des éléments au niveau de la société qui participent à qui peut vous freiner? Bonjour Elodie.
Effectivement, je voudrais soulever un autre point que j'ai toujours constaté dans mon milieu. Puisque j'ai fait déjà deux maternités, c'est-à-dire j'ai participé 2 fois à la CPN. Alors l'agent de santé nous recommandait toujours d'allaiter exclusivement les enfants. Mais qu'est-ce qui se passe? Nos grands-parents, nos parents, l'entourage, les aînés, tout ce monde essaie de nous décourager un peu de cette pratique d'allaitement exclusif. Par exemple, quand mon fils est né à IC 4 mois, ma grand-mère s'est étonnée du fait que je ne lui ai même pas encore remis de l'eau sur sa table. Comment, qu'est-ce qu'elle me disait? Comment moi j'ai élevé ta mère? Ta mère, elle mangeait à 2 mois, 3 mois, et ton oncle est-elle? Il a mangé à 1 semaine, ton oncle est-elle? Mais ta maman n'est-elle pas en vie? Il y a d'autres. Ah, nous avons fait des maternités avant vous. Si vous suivez tout ce que les médecins font, vos enfants seront malades. Et quelqu'un, son enfant, il a laissé son enfant manger après 6 mois, il ne mange pas bien, il n'aime pas de l'eau. Vous voyez que à l'hôpital, les agents de santé font leur travail, la sensibilisation. Mais là, c'est l'entourage, les voisins, ceux qui ont fait des maternités avant, essaient un peu de décourager. C'est ce qui fait que nous avons des enfants ici. Autrefois, au capitaine service, si j'ai participé, j'ai dit, il y a ma voisine qui a nourri son bébé de 3 mois, 20, un foufou et un gros. Tout simplement parce que sa maman lui disait, elle pleure beaucoup, elle a faim. Et ouais. C'était un bébé qui était du sexe féminin.
Mm-hmm.
Elle a fait donner un peu de poids en gros. Et quand l'enfant commence à manger, l'enfant ne pleure plus, il pose maintenant la question. Tu vous vois, si vous suivez les médecins, allez voir comment cet enfant allait se déranger. Pour
voir cette
pratique-là, on doit commencer aussi à montrer aux parents. J'ai posé une fois une question au médecin. Ma grand-mère m'a dit ceci, le médecin m'a répondu, m'a dit, en son temps, les genres d'épidémies qui existent aujourd'hui n'existaient pas. Les genres des infections n'existaient pas. L'atmosphère n'était pas aussi polluée comme aujourd'hui. Donc, il y a beaucoup de faits qui entrent en jeu, qui fait que, avec la modernisation aussi, il y a aussi les médecins qui font aussi des recherches et qui découvrent d'autres choses. Et c'est pourquoi on est en train d'en, on nous encourage d'allaiter exclusivement les enfants.
Voilà,
donc, il faut aussi faire voir aux parents, aux aînés, que leur moment, les années 70, 80, 90 ne sont pas des années d'aujourd'hui et les choses aussi changent. C'est pourquoi il faut exclusivement donner les mains maternelles aux enfants.
Merci.
Voilà, c'est ce que je
voulais. Merci beaucoup, Elodie, c'est net et clair. Serge, vous gardez la ligne le temps que notre invité puisse réagir. Docteur, vous avez suivi les uns et les autres. Il y a une question qui a été posée par notre ami Samuel Debounia. L'enfant a 2 mois, il sent que les mains maternelles est insuffisant, faudrait-il suppléer? Mais cette intervention d'Elodie, c'est vraiment, ça traduit vraiment l'esprit même du travail qui doit être fait. Les commentaires que vous placez à partir de ce qu'Elodie a fait, et on va remonter vers Samuel et les autres auditeurs.
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais féliciter Elodie. D'abord, jusque-là, c'est la seule femme qui est intervenue dans l'émission et je la félicite pour ça. Mais je la remercie aussi pour son témoignage.
Mm-hmm.
Et parce qu'elle a abordé dans le sens que j'avais évoqué tout à l'heure en parlant de groupe de référence. Et lorsque nous voulons que l'allaitement maternel devienne une norme sociale, convaincre la mère, c'est bon. Mais l'entourage de la mère doit comprendre aussi les avantages de l'allaitement maternel exclusif pour pouvoir soutenir cette mère. Parce que lorsqu'on parle de l'allaitement maternel, on parle de la promouvoir, de la soutenir et de l'encourager.
Mm-hmm.
Donc il est important que l'entourage comprenne. Et ça fait allusion à la question qui est restée en suspens, mais qu'on va aborder avant la fin. Quelle est notre stratégie pour
promouvoir
l'allaitement maternel? Donc j'espère qu'on a le temps d'y revenir. La question de modernité est revenue encore une fois. Mais je voudrais juste pour une illustration vous dire que il n'y a pas plus moderne que la sienne. Et aujourd'hui, la majorité des femmes en Suède retournent à l'allaitement maternel exclusif.
Mm-hmm.
Donc, je reviens en disant, restons dans la dynamique de la modernité, mais gardons ce qui est bon.
Mm-hmm.
Ne perdons pas ce qui est bon pour perdre du temps à les récupérer comme ça se fait par ailleurs. Donc, c'est extrêmement important. Mm-hmm.
Et Samuel dit, est-ce qu'on peut arriver dans des cas où la femme sent que l'enfant pleure beaucoup? Pourquoi? Parce que le lait maternel est insuffisant. À 2 mois, faudrait-il faire autre chose?
Je vous prends au mot. Vous avez dit, la femme sent que l'enfant pleure beaucoup parce que le lait maternel est insuffisant.
Mm-hmm.
C'est un préjugé, c'est un jugement de valeur. En réalité, le processus de production de lait, comme je l'ai dit, est impardonnable lorsque le processus de fission est enclenché. Donc, pour cette maman qui pense qu'à 2 mois, le lait n'est pas suffisant, il y a un problème. Il y a un problème avec le positionnement de l'enfant, il y a un problème avec le temps d'allaitement. Est-ce que l'enfant est bien positionné? Si l'enfant n'est pas bien positionné, la maman a un bal au sein, elle arrête très rapidement l'allaitement et l'enfant n'a pas suffisamment. Si l'enfant n'a pas le temps de fission qu'il faut, il n'a pas suffisamment de lait et il n'est pas rassasié. Donc, il faut qu'on voit dans son entourage et qu'on identifie quel est son problème. La solution existe.
Mm-hmm.
Et à 2 mois, il n'est pas possible que le lait ne soit pas suffisant. Donc, cher Samuel, c'est pas nécessaire de donner de lait de vache à votre enfant. Cherchez quelqu'un qui discute avec votre épouse et qui identifie le problème et qui apporte la solution tout de suite.
Mm-hmm.
C'est tout ça qu'il faut soutenir l'allaitement maternel.
Et nous, d'ailleurs, nous n'avons pas évoqué ça depuis le début. C'est en quelle périodicité exclusif, jusqu'à combien de mois, jusqu'à quand, à quelle période on peut ajouter autre chose? Ça aussi, c'est la question. Peut-être qu'on aurait évoqué au début, mais on a encore le temps, si vous pouvez expliquer ça.
Oui, la notion d'exclusif couvre les 6 premiers mois de la vie.
Mm-hmm.
Et en quantité et en qualité, le lait maternel reste le meilleur aliment et le
seul
aliment jusqu'à l'âge de 6 mois.
Mm-hmm.
Après 6 mois, la qualité du lait ne baisse pas de façon significative, mais la quantité ne suffit plus.
Okay.
C'est pour ça qu'après le 6e mois, il faut commencer par introduire progressivement des aliments variés, de consistance, qui vont partir du liquide semi-solide jusqu'à l'aliment solide.
Mmh. Et vous avez dit tout à l'heure la stratégie, parce que l'ingénieur Mangoyo a dû expliquer en loin et en large ce qu'il pense qui doit être fait. Il y a aussi beaucoup d'amis sont revenus sur le renforcement de la sensibilisation. Et concrètement, maintenant, c'est par rapport à votre stratégie UNICEF sur terrain, concrètement, comment on y arrive pour cette campagne de sensibilisation? C'est ce que vous aviez le souci d'expliquer tout à l'heure.
Il y a beaucoup de bonnes choses qui ont été dites. Mmh. Et je crois que ça fait des partenaires de mise en œuvre, tous ceux qui sont intervenus dans cette intervention. Avant d'aller à la stratégie de l'UNICEF, je voudrais déjà dire que ce souci d'élargir la sensibilisation au-delà du secteur de santé, mais utiliser les différents canaux qui s'offrent à nous, a déjà commencé. Par exemple, au mois de juin dernier, dans la province du Bas-Congo, pour la première fois, la sensibilisation par rapport à l'allaitement maternel a été couplée avec la campagne de distribution de vitamines A et de vaccination.
Okay.
Et ce qu'on a appelé la semaine, la journée santé de l'enfant.
Mm-hmm.
Et cette expérience pilote va prendre de l'ampleur et couvrir de plus en plus le pays.
Mm-hmm.
Du point de vue stratégie, l'UNICEF et ses partenaires ont une stratégie nationale de promotion de l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant.
Mm-hmm.
Et dans cette grande stratégie, la promotion de l'allaitement maternel optimal, c'est-à-dire d'avoir l'allaitement exclusif
mm-hmm.
pour les 6 premiers mois, et sa continuation, jusqu'à l'âge de 2 ans, mm-hmm. prend une place importante. Et pour cela, il va falloir utiliser tous les canaux de communication,
mmh.
adresser tous les groupes de référence, c'est-à-dire la mère et les gardiens de tradition. On a entendu parler des églises, des groupes de morale, mmh. tout ce monde a un rôle à jouer. Et l'école, dans le life skill, les attitudes de vie.
Mmh.
Je crois que tout ça fait partie de la stratégie mmh. de l'UNICEF, qui est soutenue par un ensemble d'émissions sur les médias, qui est soutenue par la production de prospectus, de boîtes à images pour que les relais communautaires au niveau
mmh. du
village puissent la promotion. Je crois que tout ça,
mmh.
ça existe et ne cherche qu'à passer à l'échelle.
Mmh.
Je voudrais dire.
Alors, rapidement, pour permettre aux deux derniers auditeurs d'intervenir, on reviendra à vous pour la conclusion. Si vous pouvez placer un mot, continuez.
Je voudrais juste dire que dans cette stratégie, nous avons étudié les évidences qui existent. On sait que 80% des enfants sont nés en formation sanitaire. Mais seulement 42% des enfants bénéficient de l'allaitement immédiat dans leur cycle de naissance. Et le gouvernement a dit de prendre une directive qui oblige tous les agents de santé à le faire. Je crois que c'est un grand pas. Et si on arrive à mettre en œuvre cette directive,
oui.
On passe de 42 à 80%, c'est extraordinaire.
Merci. Et Serge, vous êtes à Cucut, Aimé et Taïsiro, on va vous accorder la parole. Nous parlons de l'allaitement maternel, l'allaitement exclusif, bien sûr, jusqu'à 6 mois dans cette émission.
Parole aux auditeurs.
Serge, vous êtes à Kikuit dans la province de Bandundu. En une minute et demie, votre intervention, on tend déjà vers la fin de l'émission. Et Serge, vous êtes avec
Merci
nous.
Merci beaucoup. Oui. Bonjour à l'invité également.
Uh-huh.
En fait, moi, ma contribution va porter plus que l'invité essaye d'insister sur l'allaitement maternel exclusif. Parce que moi, il y a cela au moins un mois, je suis écrit ici. Ma femme a été dédaignée par certaines femmes qui sont venues aussi répondre au rendez-vous de la consultation pré-scolaire. Soit disant, il faudra donner de l'eau à l'enfant, il ne faut pas faire souffrir l'enfant comme ça. Alors, comme il y avait un discours à côté, il a essayé un peu de calmer les mamans là qui essayaient quand même de menacer ma femme ou quoi.
Mm-hmm.
Donc, que l'invité essaie quand même d'appuyer par les exemples sur les bienfaits et de l'allaitement maternel. Et surtout, il doit souligner les dangers de l'allaitement au biberon chez les enfants avant 6 mois. Mmh.
Merci beaucoup, Serge. Dommage vraiment que votre épouse soit prise à partie par d'autres femmes, mais le fait que nous insistons à la radio, vous qui avez découvert l'importance, c'est aussi notre responsabilité dans la communauté d'insister auprès des autres femmes avec qui vous êtes à Kikwit. Aimée, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour
Pierrot. Mais vous êtes à Isiro, en province orientale. Nous parlons de l'allaitement maternel. Vous avez suivi une femme qui est intervenue de Guémena, Elodie, avec des bons exemples pour encourager les uns et les autres. Vous aussi, qu'est-ce qui doit être fait dans votre milieu à Isiro?
Bon, malheureusement, je n'étais pas à l'écoute des auditeurs précédents.
Mm-hmm.
Bon, je voulais juste ajouter ceci. Il y a des mères, je ne sais pas moi, justement, après avoir mis l'enfant au monde, la maman ne s'occupe plus de son bébé. Il y a des fois, il laisse le bébé pleurer. Bon, il ne la laisse pas exclusivement comme recommandé. C'est pourquoi je voulais conseiller aux mères, surtout de prendre conscience et d'allaiter l'enfant parce que l'allaitement des bébés, ça en va de toute sa santé future. C'est pourquoi les mamans doivent bien allaiter les bébés, surtout à l'âge disons, avant 6 mois, pour que sa santé soit améliorée. Mm-hmm. Je voulais aussi soulever les cas de mères séropositives. Je ne sais pas que prévoit le gouvernement pour les mères qui sont séropositives. Parce que souvent on dit, lorsqu'une mère est séropositive, allaiter les bébés, disons, avant 6 mois, n'est pas bon. Il y a un danger ou un risque pour la santé de l'enfant. C'est pourquoi j'aimerais bien savoir qui prévoit le gouvernement
par rapport aux mères séropositives. Merci beaucoup, Aimée. Hein. Je crois bien Aimée est encore une jeune fille, c'est ça, hein?
Oui, c'est ça. D'ailleurs avec Rachel.
Ah, vous avez eu le diplôme ensemble avec Rachel. Oh, merci beaucoup. Nous vous félicitons. Vous êtes parmi les rares filles à intervenir dans cette émission depuis que vous étiez en 4e, je crois, très bien. Maintenant, si vous avez le diplôme. Parole aux auditeurs, vous félicite. Merci beaucoup, Aimée. Nous revenons à vous, docteur Eric et Alain Atekbo. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a Serge qui est revenu sur l'insistance, mais Aimée pose la question par rapport aux femmes séropositives. Faudrait-il aussi les encourager à pouvoir allaiter les enfants d'une manière exclusive? Et ça permet aussi, à vous, pour conclure cette émission, parole aux auditeurs consacrée à l'allaitement maternel.
Ok, je voudrais vraiment dire ma sympathie à Serge, parce que lorsqu'on est dans le bon et on est agressé, on se pose des questions sur qu'est-ce qu'on doit faire. Et ma suggestion à Serge et à son épouse, c'est de continuer et de transformer cette opposition en une possibilité de convaincre et de démontrer aux autres que l'allaitement maternel exclusif, c'est du bon. Et parce que seul exemple peut changer l'environnement. Donc, accrochez-vous, allez-y, le résultat est au bout de l'effort, et c'est sûr que les autres apprendront de vous. Les bienfaits de l'allaitement maternel sont énormes, et les méfaits, c'est la mort de l'enfant, c'est un développement compromis,
mm-hmm.
c'est les attitudes d'apprentissage ou des succès à l'école qui sont compromis. Donc, je crois que c'est énorme, et il n'y a que du bon dans l'allaitement maternel.
Mm-hmm.
Et aussi bien pour l'enfant, pour la mère, pour la famille et pour la nation dans son ensemble. Par rapport à la préoccupation de l'aimer sur la mère séropositive, c'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Souvenez-vous que dans l'histoire des maladies, le VIH-SIDA reste encore une maladie récente. Et on a eu des phases de connaissances et d'amélioration de nos connaissances. Et à un moment, on disait pas d'allaitement maternel. Mais aujourd'hui, avec ce que nous connaissons, la physiologie de la maladie, les modes de transmission et la probabilité de transmettre le virus de la mère à l'enfant, l'Organisation mondiale de la santé, qui est garante des directives,
mm-hmm.
et en matière de santé sur le plan mondial, est très clair là-dessus. Même une mère séropositive peut améliorer et doit allaiter son enfant de mariage exclusif pendant les 6 premiers mois de la vie. Si la mère est encore sous ARV, de l'antirétroviraux, le risque de transmission est moins, très très réduit.
Mmh.
En guise de conclusion, je voudrais remercier la Radio Capi pour cette opportunité qu'il nous a donnée de parler de ce sujet. important qui nous passionne, vous pouvez le ressentir.
Oui.
Je voudrais inviter les autres médias à emboîter le pas à Radio Capi, pas seulement la semaine mondiale de l'allaitement maternel. Le 1er janvier au 31 décembre, c'est un sujet dont nous devons parler. Les enfants naissent tous les jours et une émission pourrait changer la vie d'une famille. Je voudrais profiter de ce micro pour féliciter les femmes qui pratiquent l'allaitement maternel exclusif. Je voudrais encourager les autres qui hésitent et appeler celles qui n'ont pas encore pris la décision de leur emboîter les pas. Je voudrais dire à l'entourage qu'il faut soutenir ces femmes parce qu'elles font le bon. Et les temps ont changé, ce qu'on a fait par le passé, si on le refait aujourd'hui, on peut avoir de grosses difficultés. Donc, nous référons
pas dans
le passé.
Merci beaucoup.
Voilà, merci.
Voilà, merci beaucoup, docteur Eric Alain Atekbo. Je rappelle que vous êtes le nutritionniste principal à l'UNICEF. Vous avez fait les déplacements de notre studio. Merci à tous les auditeurs. Vous avez été très nombreux à suivre cette émission et surtout à contribuer pour cette promotion de l'allaitement exclusif jusqu'à 6 mois. Nous vous disons tous merci pour votre sympathique attention.
Merci.
On se retrouve demain vendredi pour le dernier numéro des paroles aux auditeurs de la semaine. Le premier sommet États-Unis d'Amérique et Afrique s'est clôturé le mercredi dernier à Washington. Dans son allocution, le président Barack Obama a insisté sur la responsabilité des dirigeants africains dans la mise en place d'un environnement politique propice au développement économique. Il a en outre estimé que la clé de la prochaine ère de croissance et sur le continent africain ne se trouve pas aux États-Unis, mais bien sûr à l'Afrique. Et comment commentez-vous cette actualité? On se retrouve demain autour de cette question à 11h03, heure de Kinshasa. Merci à Gilles Lumiombo qui a coordonné et réalisé cette émission mise en monde par Eric Sidiakala. Pierrot et la main, je vous la présenter sous la supervision de Nicole Ngaka. Vous allez retrouver cette émission à 20h03, heure de Kinshasa, en rediffusion, mais aussi sur www.radiotapi.net. Au revoir.